cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Adrienne Kraus.
Bonjour.
Alors vous publiez un album de pièces pour piano de Caudalie pour le label BMC. Et alors, en fait, dans le livret de cet album, l'auteur des notes de pochette, Anna Dallos, rappelle que Caudalie s'opposait à ce que les enfants apprennent trop tôt à jouer d'un instrument. Et il dit, en fait, très exactement, si je reprends la citation, c'est « ce n'est pas d'apprendre à manier des instruments coûteux auprès des maîtres tout aussi coûteux qui est important ». Souvent la musique n'entre même pas en compte dans ce processus. Ce qui compte, c'est que sans utiliser d'instrument de musique, nous apprenions une mélodie avec notre propre voix, qu'elle soit forte ou faible, belle ou discordante, que nous ressentions son contenu spirituel pénétré en nous, sans avoir à passer par un instrument, et nous permettre ensuite de le transmettre à d'autres. Alors vous, est-ce que vous avez suivi, enfin vos parents ou pas, ont fait suivre les conseils de Caudalie, est-ce que vous avez commencé l'instrument tôt ?
Excellente question. Je pense que, en revenant sur l'avis de Caudalie sur les instruments de musique et la voix, je pense que son idée, c'était amener la musique le plus proche possible aux enfants. Et comme dans beaucoup de familles, avant, c'était pas possible. Pour des problèmes de moyens, bien sûr, d'apprendre la musique tôt avec un instrument, bien sûr. Il a pensé que le meilleur moyen, vraiment, de faire partager la musique de plus nombreux, à plus nombre de gens, c'était par la voix, c'était pour faire chanter, c'était... Et aussi, je pense que l'idée, c'est que la musique en elle-même, c'est le chant. Je pense qu'à l'origine, aussi pour tous les instruments et pour tous les instruments de musique, que ce soit les instruments de cordes ou du piano, ou du percussion, même des percussions, il faut que ça part de la voix. C'est notre propre instrument qui est toujours avec nous. Et il a propagé cette idée tout au long de sa vie. Et nous avions beaucoup de chance en Hongrie à cette époque-là, quand j'étais enfant, parce que cette méthode qu'il avait développée, donc faire apprendre la musique à partir de la voix des petits âges, c'était très très répandu. C'est le fameux système Caudalie qui après était vraiment pris partout dans le monde comme base d'éducation musicale. Je pense que la citation que vous venez de dire, c'est très bien, mais je crois que plus tard, il a un petit peu...
Changé.
Oui, c'était son idée d'origine, un petit peu, même peut-être provocative, parce que c'était un peu contre aussi la façon d'apprendre un peu à la bourgeoise, si vous voulez, où à tout prix, il fallait, pour les enfants de bonne famille, apprendre le piano, absolument. Et qui faisait que les enfants moins privilégiés n'avaient pas ce choix. Mais il est, je pense, revenu un peu plus tard sur ses idées, c'est-à-dire qu'il a préféré que le chant et chanter en chorale, par exemple, ça devient la base et aussi la porte qui permet d'entrer les enfants plus tard dans le monde musical instrumental.
Cette porte, vous l'avez ouverte. À quel moment dans votre jeunesse vous avez senti vraiment que la musique était dans vos gènes, j'allais dire, dans votre... Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui a toujours été, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où ça a basculé en vous ?
Oui, les deux. En fait, je suis un très bon exemple de la méthode Caudalie, parce que j'ai commencé relativement tard. J'avais 9 ans quand j'ai commencé le piano, tout en faisant beaucoup de musique à l'école.
Mais la musique à ce moment-là, pour vous, quand vous aviez 9 ans, c'était quoi dans votre tête? C'était juste un divertissement ou c'était quelque chose vraiment qui vous...
À partir de ce moment-là où j'ai un beau jour, je me suis réveillée, ouais. J'ai dit à mes parents, je veux absolument jouer du piano. Ouais. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'était venu
comme ça. C'est pas lié à quelque chose, absolument, c'est pas un morceau
rien.
Que vous avez entendu, quelqu'un que vous avez vu.
Je viens d'un petit village où à l'époque, il n'y avait pas soi-disant ville musicale où mon père jouait quand il était jeune du piano et il faisait même partie d'un groupe de jazz à l'époque. Mmh. Mais quand je suis née, il y avait pas de musique à la maison.
Donc il n'y a pas eu un choc particulier.
Absolument pas. Donc je ne sais pas d'où
ça. Un pianiste, d'accord. Non.
Aucune idée d'où ça venait, mais à partir du moment où j'ai eu cette idée, je ne voulais faire rien d'autre.
Mmh. Alors dans les différents professeurs que vous avez vus, je crois qu'il y a eu Courtac,
oui.
Qui était un de vos. Quel souvenir gardez-vous de
Pour moi, c'est un dieu. Mmh. C'est un dieu de la musique et j'ai énormément appris de lui.
À quel moment vous avez travaillé avec lui à peu
En
près?
Fait, c'était à partir de 18 ans quand j'ai commencé à faire mes études à l'Académie Franz Liszt de Budapest. Et officiellement, il était professeur de musique de chambre. Donc, je suis allée le voir avec plusieurs instruments. J'ai joué avec alto, avec violon, flûte. Et je crois qu'il m'a pas mal aimé parce que de temps en temps, il m'a proposé d'aller jouer quelque chose seul aussi, qui était un grand privilège à l'époque. Et c'est un très, très grand monsieur et j'ai beaucoup de chance de pouvoir apprendre.
Et rétrospectivement, qu'est-ce que vous avez gardé justement de cette rencontre et de ses cours, de ses conseils, etc. Qu'est-ce que vous...
C'est
la spécificité.
Oui, c'est d'abord une autre approche de la musique. C'est une approche très analytique quelque part. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, les directions, les correspondances entre les harmonies et les notes. Par exemple, pour vous dire un exemple, c'était tout à fait courant que on est venu avec un gros morceau, une grande sonate ou quelque chose comme ça. Et on a passé 3 heures, je n'exagère pas, 3 heures sur 4 mesures. Et donc c'est tout à fait une autre approche et une autre façon de travailler la musique qui, je pense, comme certaines époques de notre approche d'une œuvre, c'est très très important de voir de cette manière-là les morceaux de musique. Après, bien sûr, c'est très difficile de recoller les morceaux parce que quand vous travaillez comme ça, vous avez l'impression que vous voyez que des difficultés, vous voyez que des choses à part. Et après, rassembler, c'est très difficile, mais on apprend énormément de choses comme ça.
Dans cet apprentissage, comment interviennent, j'allais dire, les disques, les enregistrements des autres? C'est-à-dire qu'il y a la partition, évidemment, le cœur du problème, et il y a éventuellement l'écoute des interprétations du passé,
oui.
Et après, vous, la touche personnelle, j'allais dire.
Oui, bien sûr.
Comment ce mélange, cette association se fait inconsciemment, j'imagine, parfois consciemment. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça dépend des œuvres, la manière dont vous approchez certaines œuvres ou certains compositeurs par rapport à d'autres?
Oui, je crois que ça dépend aussi des artistes, comment ils préfèrent de travailler. Moi, personnellement, je trouve que le moment quand on travaille sur un morceau où on a, par exemple, une idée d'enregistrer quelque chose, c'est plutôt dérangeant d'écouter des enregistrements... qui a été fait avant. Je pense que c'est au cours de la vie courante qu'on entend ses œuvres préférées. Mais au moment quand on essaie de trouver sa propre voix, je pense que c'est pas idéal.
C'est mieux de se couper
oui,
de tout.
Oui, parce que ça peut influencer dans une certaine direction. Mais bien sûr, quand on, pendant les études, on a à côté beaucoup des grands maîtres. Et c'est, bien sûr, on apprend énormément de choses.
Vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez rencontré Courtage, c'était un peu Dieu. En termes d'interprètes, est-ce qu'à l'époque, vous aviez aussi des interprètes qui étaient des pianistes, qui pour vous étaient des dieux, des dieux.
Oui, oui, bien sûr. C'est Annie Fischer que j'admire beaucoup. Et à cette époque-là, Sviatoslav Richter venait pas mal en Hongrie. Ouais. Et j'ai eu de la chance de l'écouter plusieurs fois pendant les études. Et c'était bouleversant, bouleversant. Et donc, ces deux-là, je dois dire, m'ont beaucoup influencé dès mon plus jeune âge.
C'est stimulant ou ça freine parfois justement un dieu, une icône, quelque chose un interprète qu'on vénère? Est-ce qu'au contraire, ça donne envie justement de...
Oui, je trouve ça très stimulant. Ça donne des ailes. Et si je peux me permettre de parler deux secondes d'une grande dame qui est heureusement... encore avec nous, Livia Rev, qui est une très grande pianiste hongroise et qui vit ici aussi en France depuis de longues années et qui est un petit peu aussi la continuité de la grande école musicale hongroise et avec qui j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler, même aujourd'hui de temps en temps quand j'ai des choses nouvelles. Et elle aussi, elle m'a beaucoup, beaucoup influencée.
Dans les rencontres, donc vous aviez, après vos intégrales de préludes de Chopin et de Shostakovich, vous avez rencontré Scholti. Ça aussi, c'était une rencontre importante dans votre
Oui, très importante.
Dans votre carrière.
C'était un très grand monsieur, un très grand musicien. La malchance dans la chance, c'est que je l'ai rencontré tout au bout de sa vie. Donc j'ai eu... en fait, peu de temps pour pouvoir profiter de sa présence. Mais oui, c'était une grande chance de le rencontrer.
Comment vous avez abordé donc cet album consacré à Kodály? Quel était le projet initial et comment s'est effectué le choix des pièces que vous avez sélectionnées?
L'œuvre pianistique de Kodály est très méconnue. Et j'ai toujours trouvé ça dommage. C'est des œuvres qui... Il n'a pas écrit énormément pour le piano, mais je trouve que les œuvres qui sont présentes sur ce disque sont des œuvres qui vaut absolument d'être revisitées, rejouées, repensées. Donc c'est un projet que j'avais depuis pas mal d'années. Et l'année dernière, c'était l'année Kodály. On a fêté 125e année de sa naissance. Et c'était un petit peu l'occasion qui m'a donné la dernière pousse pour faire ce disque. Et en fait, le programme de ce disque, les œuvres qui se trouvent là-dessus, c'est les plus importantes œuvres, plus importantes œuvres de Kodály pour le piano. À part ça, il avait écrit deux petites séries pour les enfants. J'ai trouvé que c'était plutôt les œuvres d'études, si vous voulez. Donc c'est pour ça. Mais c'est quand même encore qu'il a écrit pour le piano. Donc je n'ai pas pu dire que c'est un disque d'intégrale des œuvres de Kodály. Mais je trouve que c'est vraiment les œuvres les plus importantes qui se trouvent là-dessus.
Ce sont des pièces que vous jouez depuis longtemps ou pour
La plupart, oui. Ouais. La plupart, oui. Surtout les Danses de Marosset, parce que c'est une œuvre grandiose, très brillante. Et ça fait toujours beaucoup d'effet. Et ça, je joue depuis très longtemps.
Il y a notamment une pièce qui s'appelle Méditation sur un motif de Debussy. Donc Kodály est venu, je crois, à Paris. Un voyage, il était assez marqué par cette musique. je crois pas que vous ayez enregistré encore, vous ayez attaqué le chapitre de Debussy, c'est quelque chose qui vous tente ou pas en...
J'aime beaucoup, beaucoup Debussy et je joue aussi pas mal. Ouais. Enregistrer, je ne crois pas, parce D'accord. que c'est... Je laisse ça pour les Français.
Trop français, c'est ce que j'allais vous dire. C'est trop français.
Non, justement, il y a une magnifique intégrale des œuvres de Chopin par Lévi Arev. Magnifique, magnifique. Mmh. Très, très beau. Juste un mot sur le, encore sur le choix du programme. Ça montre très bien l'évolution du compositeur Kodály. Les premières pièces présentes sur ce disque, c'est justement le Kodály moderniste qui, un petit peu comme Bartók, qui cherche sa nouvelle voix et après l'influence des compositeurs impressionnistes français, bien sûr, et il a été à Paris. Au cours de 1905-1907. Et il est rentré à Budapest avec un tel enthousiasme. Et justement, cette pièce de méditation, c'est une... il prend un thème du deuxième mouvement du quartet, le quatuor de Debussy. Et quand il rentre à la maison, il est tellement enthousiaste qu'il joue... enfin, il s'en souvient de ce thème, il joue ça à sa femme et tout de suite il note tout ce qui reste dans sa mémoire. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle aussi méditation, parce que c'est un petit peu, on s'en souvient, mais pas exactement. Mais en tout cas, c'est très, 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 très influencé par cette musique. Et au fur et à mesure, quand on avance dans le temps, 10 ans plus tard, quand le deuxième cycle, les 7 morceaux pour piano, vient de naître, il tourne petit à petit, tout en gardant ses expériences modernistes et l'influence debussiste. Il fait un peu demi-tour et il revient sur la musique populaire hongroise qu'il intègre petit à petit dans sa musique. Et à la fin, finalement, le dernier morceau du disque, Les Danses de Marosek, c'est tout à fait dans ce contexte. Il oublie complètement toutes ses influences, disons, de jeunesse. Et plus tard, il continue uniquement dans cette direction, c'est-à-dire développer de plus en plus la musique populaire dans sa musique.
C'est important pour vous, justement, l'identité musicale hongroise, de faire justement connaître, vous expliquiez que cet aspect de l'œuvre de Kodály n'est pas justement très, très connu, c'est pas la plus... C'est important pour vous, justement, cette transmission de... Et en même temps, pour revenir sur cet aspect de nationalité musicale, je sais pas comment on pourrait dire, vous avez dit, j'aime bien jouer Debussy, mais je me vois pas l'enregistrer, je laisse ça aux Français, comment ça intervient, j'allais dire, sa personnalité, sa formation, oui. Sa culture dans la musique.
Je crois qu'il y a beaucoup de débats de temps en temps sur cette question, parce que il y a des écoles nationales. Peut-être moins aujourd'hui avec tous ces professeurs qui voyagent dans le monde entier. Et donc, peut-être aujourd'hui, c'est un tout petit peu atténué. Mais je crois qu'il reste quand même dans nous une certaine germe, disons, qui influence quand même. Et la musique hongroise particulièrement, c'est très lié à la langue. Et la langue est très spécifique, c'est très rythmé. Et il y a on a une comment dire, justement une spécificité, c'est que l'accent de la langue, enfin c'est les mots, c'est toujours sur la première syllabe. Et qui fait que notre musique est pareille. Et aussi, comme les musiques de Kodály ou Bartók, par exemple, sont très basées sur la musique populaire, donc les chants populaires, donc les paroles, donc la langue. Je trouve que la musique hongroise, pour ces raisons-là, est très liée à l'identité nationale, je ne sais pas comment dire, mais surtout à la langue. Et peut-être la musique française, la musique de Debussy, dans ce sens, est moins française, disons, mais c'est la subtilité française, c'est cette recherche de constant de la beauté des couleurs, de faire montrer quelque chose de... C'est tout à fait dans un autre sens, ou peut-être l'identité... je pense que c'est à voir avec la culture des gens. Et en tout cas, c'est plus proche. Je pense qu'on est tout à fait... On peut tout à fait apprendre, gérer ces choses-là, mais...
Le fait, justement, vous habitez entre la... Vous êtes partagé entre la Suisse et la France. Quand vous êtes en France, vous... ça vous permet de mieux... comprendre, je ne sais pas si c'est le mot, mais de mieux mesurer certaines choses musicales ou pas vraiment.
Je pense oui. J'adore la France. Je trouve que la France c'est vraiment mon deuxième pays. Et curieusement, je me suis jamais sentie étrangère ici, malgré que tout au début j'avais beaucoup de problèmes. Je parlais pas un mot de français, ça c'est venu petit à petit, mais je
l'ai bien rattrapé.
Je
ça
sais
va.
Pas, c'est gentil. Mais je sens que quand même, malgré nos différences, nous se ressemblons.
Un autre aspect aussi qui est important pour vous, c'est la musique de chambre, qui est assez présente dans votre répertoire. Quelle place lui donnez-vous et comment c'est arrivé comme ça? C'est quelque chose qui a toujours été en vous ou c'est venu à un certain moment?
Oui, ça m'a toujours été très important. La vie d'une pianiste, c'est très très solitaire. Et la musique de chambre, ça, c'est vraiment une occasion de partager la joie de la musique. Avec des autres musiciens et c'est extraordinaire. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur de jouer avec des bons musiciens et j'adore ça, c'est très important. Et bien sûr, le répertoire est aussi tellement magnifique, c'est une source de bonheur.
Tout à l'heure, on reprend l'exemple de Debussy, vous avez dit que vous aimiez bien le jouer, mais pas l'enregistrer. Comment vous faites justement la part entre les œuvres, les compositeurs que vous aimez jouer pour vous, sur scène, et ceux que vous voulez graver dans un studio? Est-ce que pour vous, vous donnez un sens particulier à un enregistrement, à un CD, ou un enregistrement, parce que avec la dématérialisation de la musique, oui. On parle uniquement de parler de CD, mais est-ce que pour vous, il y a vraiment une différence entre la musique jouée sur une scène devant un public et la musique dans un studio?
Je crois que quand on prend une décision d'enregistrer quelque chose, c'est-à-dire que, disons avec des grands mots, graver ça pour l'éternité, je crois qu'il faut que ça soit vraiment un besoin de dire quelque chose. C'est-à-dire, et aujourd'hui, surtout quand telle ou telle œuvre était déjà tellement fois enregistré et il existe des références extraordinaires. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à tout ça? Mais je crois qu'il y a un moment donné dans la vie d'un artiste où il sent que, voilà, j'ai quelque chose, je dois dire ça maintenant. Et je crois que quand on sent, c'est une chose qui doit venir de l'intérieur, quand on sent qu'on est prêt avec une œuvre, vraiment, on sent que c'est quelque chose de très important, peut-être pas tout à fait autre chose que les autres ont déjà dit, mais j'ai envie, j'ai besoin de dire ma version sur cette œuvre-là. Je pense que c'est là le moment venu pour enregistrer vraiment, et pas parce que on a trouvé une œuvre en fin fond d'une bibliothèque qui n'a jamais encore enregistré, mais ça fait une bonne occasion. Je trouve ces choses-là un peu dommage.
Ouais. Est-ce qu'il y a justement des répertoires ou des œuvres dont vous avez très envie de graver pour l'éternité prochainement?
Oui.
Et lesquelles alors?
Alors le tout prochain, c'est Schumann. J'ai beaucoup envie de faire un CD Schumann. Que je joue aussi depuis des années, et je sens que c'est prêt, c'est mûr.
Et alors justement, donc, quand vous abordez comme ça un album autour d'un compositeur, le choix des œuvres, la sélection, le programme lui-même est important pour vous?
Très très important.
Sur scène, c'est pareil aussi, quand vous retrouvez un public, comment ça se passe?
Sur scène, j'ai l'impression qu'on est obligé de plus en plus céder à des contraintes il faut que ça soit très particulier pour un public particulier, soit il faut que ce soit
jouer des tubes.
Très grand public, voilà. Donc c'est de plus en plus rare qu'on nous laisse vraiment le choix, restez à les jouer ce que vous voulez. C'est dommage d'ailleurs.
La place de la musique classique aujourd'hui en 2008, est-ce que par rapport au public, est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous trouvez que, enfin, comment voyez-vous comment est perçue la musique classique? Parce que vous avez l'impression justement, de par citer un exemple d'une contrainte, ou en tant qu'interprète, vous pourriez être maître entre guillemets de votre programme, et c'était malheureusement pas possible.
Oui,
comment
oui.
vous
Je pense qu'aujourd'hui la musique classique est en train de se battre pour survivre dans tous les niveaux, je trouve, à partir des orchestres, des formations de musique de chambre, des solistes. Et c'est très contradictoire parce que probablement la musique classique n'a jamais été aussi présente dans la vie, aussi accessible pour tout le monde. Et pourtant, c'est de plus en plus difficile de faire passer le message que c'est quelque chose de essentiel pour la vie. Pour gagner le public, pour faire venir les jeunes dans les salles de concert, c'est un travail constant que nous devons tous faire, tous les musiciens et les gens qui travaillent autour de ça. Et avec tous ces problèmes économiques, je pense que nous serons les premiers à en souffrir, parce que quand il y a des problèmes économiques, c'est toujours la culture la première chose qui...
Vous êtes assez pessimiste par rapport à ça?
Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je pense que savoir les difficultés, ça ne veut pas dire qu'il faut presser les bras, au contraire. Parce qu'en même temps, les gens ont tellement soif d'être émus, de recevoir quelque chose de beau, de... Une fois qu'ils font l'effort pour venir dans des salles, la plupart du temps, ils sont heureux, ils sont contents. Et je crois qu'il faut juste les solliciter ou de les faire comprendre qu'on ne peut pas vivre sans la musique. Je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille plus qu'avant, justement, pour le futur.
Alors, parce que vous trouviez que le pianiste est un peu solitaire, parfois se sent tout seul. Vous avez quand même collaboré avec pas mal pas mal de musiciens. Vous avez travaillé avec Yuri Bashmet, Shlomo Mintz, etc. Quels sont les, est-ce que vous avez aussi des envies de collaboration de musiciens avec lesquels vous auriez envie de travailler dans le futur?
Bien sûr, mais c'est très curieux parce que ça, c'est toujours des hasards. Qu'on rencontre un autre musicien, des circonstances inattendues et qui peuvent parfois déboucher sur les longues années de travail ensemble.
Ça a été le cas justement dans les...
Oui, avec les deux, oui.
D'accord.
Ouais.
Mintz, par exemple, ça s'est passé avec Shlomo Mintz, c'était...
C'était... Il y avait cette fameuse croisière musicale et on s'est rencontrés sur cette croisière et on a travaillé plus que 10 ans ensemble.
Alors quels sont justement éventuellement les... Même si c'est le hasard parfois, vous aimeriez que le hasard arrive avec qui?
Oui, est-ce je suis des... toujours prête à des nouvelles aventures.
Parce que justement, vous êtes... vous racontiez tout à l'heure ne pas trop écouter de disques, comment vous enregistrez, quand vous travaillez. Mais est-ce que malgré tout, est-ce que vous écoutez quand même beaucoup de musique en dehors de celles que vous jouez ou des œuvres que vous...
Oui, absolument.
Est-ce qu'il y a toujours de la musique chez vous? Est-ce que vous allez au concert? Est-ce que vous achetez des disques? Est-ce que... Ou ça dépend, il y a peut-être des périodes, des phases.
Oui, j'écoute beaucoup de la musique. Je vais pas très très souvent au concert, de temps en temps, mais j'écoute beaucoup de musique et j'écoute beaucoup des anciens maîtres.
Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, par exemple? Quels sont les disques qu'on peut le plus écouter chez vous en ce moment? Est-ce que vous avez des phases après, de, justement, vous allez écouter tel... Ça dépend.
Oui. C'est un petit peu comme ça, c'est des moments... comme Picasso avec sa période bleue.
Et alors en ce moment,
c'est Beethoven.
Ouais.
C'est Beethoven. En ce moment, les symphonies, les quatuors. Je réécoute les sonates de Beethoven avec plusieurs interprètes. C'est une période comme
d'accord.
Ça va passer.
Et alors, est-ce que vous écoutez autre chose que de la musique classique, hein?
Oui.
Vous parlez de jazz au début de la conversation. Parce
par exemple, sur les longs voyages en voiture entre Paris et Bâle, c'est la plupart du temps, c'est du jazz que j'écoute. J'aime beaucoup. Je pense que, en général, il y a deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise. Quel que soit le classement musical, que ce soit la musique classique ou du jazz ou même la variété. Je crois qu'il y a des musiciens extraordinaires sur tous les niveaux. Et il y a la musique... malheureusement, il faut le dire, mauvaise et ils nous envahissent parfois.
Alors, quel type de jazz vous touche? Quel genre de musicien, quel genre de répertoire en jazz vous intéresse? Il y a des...
En fait, je n'ai pas vraiment de préférence.
Vous n'avez pas de jazzman, de pianiste de jazz ou autre qui vous touche
plus que d'autres? Alors, Art Tatum, bien sûr, parce que ça, c'est... C'est incroyable, cette capacité, cette virtuosité, c'est époustouflant. Je me demande si, entre les grands maîtres de la musique classique, peut-être Horowitz, qui était sur ce niveau de, vraiment pianistiquement, c'est vrai que ça me fait beaucoup de plaisir. Et ce qui est curieux, parce que ces disques étaient tous enregistrés à des conditions... Enfin, même aujourd'hui, c'est pas vraiment un son qu'on peut beaucoup apprécier, malgré tout. malgré tout, c'est génial, oui.
Alors sur votre site internet, on découvre une facette assez originale de vous. Enfin, pas originale, mais c'est surtout de la mettre en avant sur le site. C'est la cuisine. Alors vous écrivez, je crois qu'il y a une correspondance magique entre les notes de musique et la nourriture. Et alors vous donnez donc sur votre site la recette du trio de brocoli, du poulet au paprika et du cappuccino de pruneau. Alors donc, parlez-nous un peu de ce rapport entre la musique et la...
Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Citons Rossini, grand compositeur et grand chef en même temps. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que Bria Savarin est un violoniste et qui jouait dans des orchestres différents à droite à gauche pendant qu'il... inventer ces recettes qui influençaient après plusieurs siècles. Non, c'est un petit peu ma passion à côté. J'adore ça. Et...
Donc le jour où vous mettrez votre piano à la cave, vous montrez un restaurant ?
Je pense que je ne mettrai jamais le piano dans la cave. Le jour où je ne jouerai plus, je ne vivrai plus. Donc c'est aussi
donc
facile.
Donc on peut aller sur votre site pour voir régulièrement des nouvelles recettes
ou... Voilà, la deuxième version est en préparation. Le texte est déjà écrit en français et en anglais. Donc
Schumann en disque, et les prochaines recettes, ce sera quoi alors ?
Je ne vous dis pas, il D'accord, faut visiter mon site.
Bah écoutez, bah, merci beaucoup Adrienne Krauss et bon appétit.
Merci beaucoup à vous.
Rencontre par Marc Zisman.